Suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, reprise du procès Abré au Tchad, dossier sur l'esclavage au Niger et en Mauritanie, reportage sur la médecine traditionnelle au Cameroun, et enfin quel bilan pour l'alphabétisation en Afrique. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus, restez avec nous. Nous ouvrons l'émission par le procès d'Hissène Abré qui a repris cette semaine à Dakar devant les chambres africaines extraordinaires. Lundi, l'ancien président tchadien y a été amené de force. Il refuse de se défendre, récuse ce tribunal spécial et rejette tout contact avec les trois avocats qui lui ont été commis d'office. Quels sont les handicaps de ce procès? Idriss Fall a joint à Dakar un avocat sénégalais, Maître Daouda Kav.
Premier problème, on ne peut pas faire un procès en laissant Idriss Déby de côté. On ne pouvait pas faire un procès sans identifier tous les acteurs qui sont du reste identifiables. Depuis la conception du procès, on est passé à côté. C'est comme si les bailleurs de ce procès, les ONG qui s'agitent autour de ce procès, n'avaient besoin que de la tête de Hissène Abré. Ce qui ne ressemble pas à une justice, mais plutôt à une sorte de vengeance.
D'autant que Idriss Déby Itno était le chef militaire pendant ce qu'on a appelé le septembre noir au Tchad.
Oui, justement, c'est pour cette raison que je dis, mais Idriss Déby fait partie de ceux qui ont tout fait pour que ce procès ait lieu pendant qu'il est encore en Idriss. Idriss Déby a envoyé deux émissaires à Dakar pour se faire blanchir dans la maison de la presse au Sénégal. S'il n'avait rien à se reprocher, il n'aurait pas besoin de toute cette agitation. Il est clair que Idriss Déby devait être considéré du moins comme étant un complice actif. Parce qu'on n'a jamais vu Abré tuer, on n'a jamais vu Abré torturer, mais il y avait tout un système, il y avait toute une chaîne, et que tous les acteurs de cette chaîne devaient être interpellés au même titre que Hissène Abré.
Autre difficulté, les avocats de M. Abré ont presque jeté l'éponge, on a commis des avocats d'office.
Il faut décrier la façon dont Abré est actuellement traité, parce qu'il a été violenté, il a été obligé de comparaître à la barre, alors que la loi permet au président de passer outre la présence d'Abré et continuer son procès en entendant tous les témoins qui ont été cités dans cette affaire et en se contentant des éléments de preuve dont ils disposent. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a un problème parce que simplement, le statut des chambres africaines permet à Abré de se défendre lui-même. Il n'a même pas besoin d'avocat. Et aujourd'hui, on est en train de forcer en lui imposant des avocats dont il ne reconnaît pas. Même sur le plan de la déontologie, ces avocats commis ne devaient pas accepter d'assurer sa défense. L'autre handicap, c'est de n'avoir pas créé des règles de procédure qui sont appropriées à un procès international. C'est ce qui est fait au niveau de la CPI, c'est ce qui est fait au niveau des tribunaux ad hoc créés par l'ONU. Mais au Sénégal, on s'est empressé de le juger sans de prendre en compte tous les droits de la défense qui sont prévus dans le cadre de ces procès-là.
Et tout ceci se fait sous forte présence médiatique, bien sûr.
C'est un procès qui est médiatisé parce qu'il faut rassurer, il faut montrer qu'on donne l'impression qu'on est en train de juger au nom du peuple africain, alors que ce n'est pas le cas. C'est un procès que l'Afrique n'a pas conçu, c'est un procès qui a été organisé sur demande des Occidentaux et avec les moyens des Occidentaux et avec un appui considérable du président Déby parce qu'il veut se faire blanchir, il veut se couvrir, il veut prendre les devants pour que demain peut-être il n'est plus en exercice, qu'il puisse dire que cette affaire a déjà été jugée, etc. etc.
Maître Daouda Ka, avocat sénégalais. Le dossier du jour est consacré à l'esclavage. Nous nous intéressons d'abord au Niger. Signataire de la Convention sur le travail forcé en 1961, soit un an après son indépendance, le Niger a adopté en 2002 une loi plus sévère pour interdire l'esclavage. Cependant, une enquête conduite en 2008 par l'Institut national de statistique du Niger et l'Organisation internationale du travail avait constaté que plus de 59 000 adultes et enfants sur une population totale de 13 millions, étaient victimes de travail forcé. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint le journaliste et consultant du BIT, Athanase Karayanga.
Il existe une pratique des hommes âgés surtout, qui ont atteint le quota des 4 femmes autorisées par le Coran, mais qui en plus épousent ce qu'on appelle la wahaya. C'est la 5e épouse qui sort du quota permis par le Coran de 4 femmes. Et là, la situation devient extrêmement dramatique parce qu'il faut nécessairement que cette 5e épouse soit d'ascendance esclave depuis des années, presque des siècles. Et pire que ça, la 5e épouse, généralement, c'est des gamines de 10, 11, 12 ans qui sont capturées à l'insu de leur famille. Et puis, ces enfants grandissent sans jamais plus revoir leur famille d'origine, elles deviennent l'esclave de toutes les 4 femmes légales et peuvent donner naissance à des enfants. Et ces enfants sont à leur tour esclaves. Et ainsi la chaîne se reproduit. Les esclaves reproduisent les esclaves.
Vous formez donc des journalistes pour informer correctement dans le but de juguler cette forme d'esclavage. Y a-t-il des résultats jusque-là ?
C'est une tradition qui existe depuis des siècles. Et c'est une tradition qui est adossée sur une fausse interprétation du Coran, parce que dans la communauté des musulmans, tout croyant doit être libre. Et la plupart de ces enfants qui sont capturés, qui deviennent des femmes esclaves, elles sont musulmanes. Et donc, il est absurde de maintenir en esclavage une autre musulmane. Alors, le premier résultat qu'on perçoit aujourd'hui, c'est d'abord la lutte de la société civile nigérienne. Il y a des chefs traditionnels, il y a des chefs religieux, il y a des associations. Le Niger est un des pays les plus avancés en matière de lutte contre l'esclavage traditionnel. Ce que nous faisons avec les journalistes, c'est de faire la promotion de tous ces instruments pour que l'opinion publique se rende compte que le prétexte de la religion ne vaut pas. Le prétexte d'une tradition qui est acceptée par la société ne vaut pas. L'esclavage, c'est un crime.
Dans cette crise, il y a aussi du trafic humain dedans. Une affaire de 150 milliards de dollars dans le business.
Il n'y a pas un continent qui est à l'abri de cette tragédie. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 21 millions de personnes dans le monde qui sont prises dans le piège du travail forcé. Il y a un flux énorme d'entrepreneurs du crime qui capturent des personnes, qui les font travailler, qui gagnent beaucoup d'argent. Le BIT estime effectivement qu'il y a des milliards de dollars.
Athanase Karayanga, journaliste et consultant du Bureau international du travail. L'esclavage est également toujours présent en Mauritanie. Si une nouvelle loi a durci la répression des pratiques esclavagistes ces derniers jours, de nombreux militants des droits de l'homme dénoncent un double discours de l'État mauritanien. Le militant de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, Biram Oulda Abed, a récemment été condamné à 2 ans de prison pour avoir lancé une campagne de sensibilisation à l'esclavage foncier dans le sud du pays. Mais des jeunes filles mauritaniennes sont également victimes d'esclavage à l'étranger. Des centaines d'entre elles, qui avaient reçu des promesses d'emploi en Arabie Saoudite, se sont retrouvées piégées. Les organisations de défense des droits humains dénoncent une véritable traite de la personne. Reportage à Nouakchott de notre correspondant Brahim Dia, qui a pu rencontrer Mariata Ba, qui, elle, a réussi à échapper à ses employeurs.
Je pensais que j'allais seulement travailler tranquillement dans le pays du prophète Mohammed, pays d'humanisme. On m'a dit au départ que j'allais seulement garder les enfants. Une fois sur place, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça. C'était plutôt un travail de domestique.
Maria Taba, une trentaine d'années, est allée en Arabie Saoudite. Elle y a passé une vingtaine de jours. Nous l'avons rencontrée à la périphérie de Nouakchott. Des agences de placement semi-clandestins lui avaient promis un emploi de babysitter. Elle s'est retrouvée domestique à tout faire.
Ma patronne a commencé à me menacer. Elle me réveillait à tout moment. Je montais les escaliers pour nettoyer les murs. Je faisais tout ce qu'elle voulait. J'ai demandé seulement un peu de sommeil, même si je ne mange pas, car je souffre d'hypotension.
L'alerte sur le sort des Mauritaniennes employées en Arabie Saoudite a été donnée par l'AFCF, Association Mauritanienne des Femmes Chefs de Famille. Ces jeunes filles, domestiques à tout faire, subissent aussi des violences sexuelles. Aminatou Mint Mokhtar est présidente de l'AFCF.
Elles sont maltraitées, battues, insultées par la famille, la femme, violées parfois par le mari.
L'AFCF, avec les familles de certaines victimes, a porté l'affaire devant la justice mauritanienne. 13 filles ont été rapatriées, mais le dossier n'est pas encore clos. Aminatou Mint Mokhtar.
Nous sommes déterminés à continuer le combat pour que toutes les femmes viennent et pour que le trafic s'arrête en Mauritanie et pour que cette question soit vraiment étudiée et soit régularisée par la justice d'une manière qui satisfait les victimes.
Les organisations mauritaniennes de lutte contre l'esclavage sont elles aussi saisies de la question. La majorité des filles envoyées en Arabie Saoudite, en effet, sont ici de familles d'origine servile. La présidente de l'AFCF, qui est aussi membre de l'ONG SOS Esclaves, entend continuer le combat.
La justice n'est pas faite et tant que ces femmes ne sont pas revenues toutes, nous n'acceptons pas de baisser les bras. Nous continuons à lutter.
Brahim Dia, à Nouakchott, pour La Voix de l'Amérique.
Rubrique santé, la 13e journée mondiale de la médecine traditionnelle africaine a eu lieu la semaine dernière. Au Cameroun, ce secteur est menacé par des imposteurs qui s'improvisent tradipraticiens sans véritable expertise. La situation préoccupe les autorités sanitaires dans ce pays, d'autant que 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle. Reportage à Yaoundé de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka.
La médecine traditionnelle qui assure pourtant le soin de 80% des Africaines selon l'OMS est menée par les nombreux problèmes, dont le phénomène de faux tradipraticiens. Les populations s'en offusquent. Rike Egula, résident de Yaoundé.
La médecine traditionnelle, pour moi, est l'une des meilleures médecines au monde. Mais actuellement, il y a trop d'imposteurs. Il y a ceux qui s'autoproclament tradipraticiens alors que ce sont les charlatans. Et ça fait qu'actuellement, beaucoup de personnes ont peur maintenant d'aller vers les tradipraticiens. Quand je dis vers les tradipraticiens, je parle bien sûr des vrais tradipraticiens.
Les tradipraticiens sont les premiers à avoir diagnostiqué les maux dont souffre la médecine traditionnelle au Cameroun. Une thérapie appropriée est d'ores et déjà mise au point. Arthur Bellinga est tradipraticien.
On est conscient que notre milieu est infesté, la médecine traditionnelle, par des faux tradipraticiens. Ils sont nombreux, ces arnaqueurs, qui promettent la guérison aux patients, mais qui ne tiennent pas toujours parole. C'est justement pour écarter ces arnaqueurs que nous avons décidé de nous regrouper en association des vrais tradipraticiens. Nous échangeons nos expériences, nos découvertes.
En dépit des intrusions malsaines, la médecine traditionnelle connaît des avancées significatives. Elle fait désormais bon ménage avec la médecine moderne. Le professeur Arthur Essomba est le directeur des soins au ministère de la Santé publique.
La médecine traditionnelle est basée sur la connaissance du patrimoine herboristique. Un certain nombre de médicaments, même dits modernes, sont issus des plantes traditionnelles. Il y a donc une connaissance de l'herbier, on parle d'herbier national, qui peut être utile pour pouvoir traiter les populations camerounaises.
Toujours dans le registre des avancées, la médecine traditionnelle camerounaise a son mot à dire sur la scène africaine. Cela a été souligné à grands traits lors des festivités marquant la 13e journée africaine de la médecine traditionnelle, célébrée sous le prisme de la réglementation des tradipraticiens. Un thème qui épouse bien l'air du temps au Cameroun. Moki Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
Rubrique éducation pour finir l'émission. L'avenir que nous voulons commence avec l'alphabet. Dixit Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion de la journée mondiale de l'alphabétisation mardi, dont le thème cette année était « Alphabétisation et société durable ». L'événement marquait le 50e anniversaire du Congrès mondial sur l'élimination de l'analphabétisme. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain ? Nathalie Barge a joint un instituteur à Léo, dans le sud du Burkina Faso, Sawadogo Sayuba.
Actuellement, le problème d'alphabétisation, c'est vraiment un problème dans les pays comme le nôtre. Plus de 75% de la population est analphabète. Donc, quand on parle d'alphabétisation, je crois que c'est une bonne chose, puisque ça pourrait résoudre pas mal de problèmes. Bon, les gens n'arrivent pas le plus souvent à lire les programmes politiques. Souvent aussi, bon, vous savez que nous sommes un pays très agricole, donc souvent les techniques agricoles, souvent le protocole nous vient d'ailleurs, et quand on n'arrive pas à transcrire cela ça pose pas mal de problèmes. Je crois que si la majorité de la population est alphabétisée, je pense qu'on peut amorcer le train du développement. Pour moi, c'est une stratégie de développement.
75% des personnes qui sont analphabètes, c'est réellement le chiffre encore au Burkina Faso ?
Ce taux-là peut-être date d'un peu plus de 3 ans, mais je crois que malgré les efforts qui sont faits, ça ne descend pas autour de 70 à 75%. Mmh.
Mais alors, comment vous expliquez cela, justement, par rapport à ce que vous venez de dire, tous les efforts qui sont entrepris jusqu'ici ?
Bon, le taux, je pense qu'il y a d'abord le problème de moyens, parce qu'il faut reconnaître que bon, nous n'avons pas toujours assez de moyens pour mettre en pratique nos politiques. Bon, le taux d'échec est très élevé. Et il y a aussi que, bon, 40 ans passés, il y avait beaucoup de localités qui n'avaient pas d'école. Donc, je peux dire que des localités vraiment où ils n'avaient pas la possibilité d'être alphabétisés. Donc, après un certain âge, ces gens-là n'ont plus le courage d'apprendre. Donc, ça rend très difficile le processus d'alphabétisation. Donc, ceux-là, vraiment, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école.
Vous enseignez à des jeunes élèves de 10-13 ans, mais est-ce que vous participez à des programmes pour permettre aux populations, justement aux adultes, d'apprendre à lire et à écrire ?
Oui, nous participons souvent à des programmes. Je crois qu'actuellement, même notre ministère, c'est un ministère, bon, on dit ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Ça veut dire qu'on prend en compte l'alphabétisation. Voilà, il y a des structures qui sont mises en place, des promoteurs qui créent des centres d'alphabétisation pour des adultes. Nous avons certains de nos collègues qui initient des formations à l'intention de ceux qui n'ont pas pu avoir la chance d'aller à l'école, c'est-à-dire le cours du soir à partir de 18h jusqu'à 20h. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école peuvent venir pour apprendre à lire et à écrire. On a des collègues qui initient ces centres-là. Et nous sommes actuellement en pleine saison pluvieuse au Burkina, donc il y a beaucoup d'activités qui sont suspendues, surtout les activités scolaires, mais qui reprennent tout juste après la saison pluvieuse. Ces gens-là ont souvent peut-être 6 mois comme ça pour apprendre à lire et à écrire.
Sawadogo Sayuba, instituteur Léo au Burkina Faso. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Mireël Dubinski et Alfredo Santos. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. D'ici là, retrouvez-nous sur Twitter et Facebook, VOA Sahel Plus. Nous nous quittons en musique avec Fela Kuti et son Everything Scatter. Pour célébrer cette bonne nouvelle, 6 albums de Fela Kuti vont être réédités et sortis en version vinyle grâce à Knitting Factory Records. Avis aux amateurs, la sortie est prévue pour le 16 octobre prochain. Très bonne soirée et bonne nuit à tous.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.